Tandis qu'il arpentait la rue principale, Derek étudiait attentivement tout ce qui s'offrait à ses yeux. Tauris n'était pas aussi vaste que les cités terriennes pré-système, mais sans commune mesure avec les deux villages qu'il avait visités jusqu'alors. À en croire les explications de Bronson, tous les bourgs et villages du royaume étaient bâtis à l'intérieur d'une enceinte circulaire. Derek n'avait vu que quelques huttes et maisonnettes misérables à l'extérieur de la muraille.
Leurs habitants sont-ils autorisés à se planquer derrière les fortifications en cas d'attaque ennemie ?
S'interrogeait-il.
La guilde des aventuriers vient-elle à leur secours ?
Derrière la grande porte s'ouvrait la rue principale. Une chaussée pavée bordée de boutiques, d'ateliers, d'auberges et de tavernes, allant des bouges les plus infectes aux restaurants les plus luxueux à mesure que l'on s'enfonçait au cœur de la cité. Rats à la broche ou plats raffinés proposés à prix d'or, chacun pouvait y trouver son compte. Les habitations obéissaient à la même règle. Le visiteur devait traverser les taudis entassés à proximité des remparts, puis franchir une deuxième enceinte pour gagner le quartier marchand. Les fournisseurs y étaient de toute première qualité. C'était là que se trouvait la forge où étaient fabriquées les lames et les armures qui équipaient la garde de la ville. Naturellement, les habitations y étaient plus vastes et plus luxueuses. Chaque maison disposait d'un jardin et d'une cour intérieure.
« Tout comme les gens du village de Raina »,
observa Derek. De nombreux artisans et boutiquiers s'étaient établis près de la troisième fortification. À en croire Bronson, au-delà de ces murs, le coût de la vie était prohibitif. C'était là, au cœur de Tauris, que les demeures nobles se pressaient les unes contre les autres, des plus humbles aux plus imposantes. Toutes les familles aristocratiques étaient autorisées à y résider, quelle que soit leur fortune. Celles qui se trouvaient dans une situation financière catastrophique étaient cependant libres de renoncer à leur titre en échange d'une forte somme d'argent et de s'installer en un lieu plus abordable. La zone, baptisée Clos des Patriciens, ne comptait qu'un restaurant et deux auberges. Pour le reste, le ravitaillement était assuré par une armée de domestiques qui se fournissaient dans les boutiques du quartier marchand. Enfin, au sommet de la colline qui dominait la cité, se dressait le manoir du seigneur, dont on pouvait observer les tourelles extravagantes depuis l'extérieur des remparts. À mi-chemin de la ville basse, Sylvie, qui avait pris la désagréable habitude de s'asseoir sur la tête de Thomas, ordonna à Derek de faire halte.
« Ça sent bon !»
gloussa l'animal.
« J'en veux ! Donne-moi, maintenant !»«
Évidemment, ça ne pouvait être que ça. La bouffe, son unique centre d'intérêt. »
L'odeur des brochettes de volaille rôtie que proposait un vendeur de rue n'avait pu lui échapper. Derek vit là une occasion d'occuper son familier pendant qu'il visitait la cité. Il se tourna vers Bronson.
Ça vous dit ?
Le majordome plissa le nez.
Non merci, je vais attendre de me trouver au manoir. Nous ne sommes plus très loin à présent et personne ne sait jamais au juste quelle viande l'on sert dans ces échoppes.
Oh, il fait le délicat.
Derek s'adressa au vendeur qui, heurté par les paroles de Bronson, s'était empourpré.
Donnez-moi 6.
Eh bien, monsieur, ça vous fera 12 pièces de cuivre.
Derek tira la somme de son bracelet d'inventaire et la déposa sur un angle de l'étal. Voyant la monnaie apparaître comme par magie, le jeune homme se montra nerveux.
Êtes-vous certain qu'une personne de votre condition devrait manger ce genre de choses ?
Bredouilla-t-il.
Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?
Dit Derek.
« Allez, donne-moi ce que je t'ai demandé. »
Le vendeur lui remit sa commande, mais n'empocha pas les pièces.
« Vous ne me devez rien, monsieur, »
dit-il d'une voix presque suppliante.
« Cadeau de la maison. »
Derek leva les yeux au ciel et fit volte-face sans reprendre son argent. Il fit disparaître la moitié des brochettes dans son inventaire et confia les trois autres à Thomas. Ce dernier l'interrogea du regard.
« Sylvie ne peut pas manger et marcher en même temps »,
sourit Derek. À ces mots, la lapicorne perchée sur la tête de Thomas attendit gueule grande ouverte qu'il lui donne la béquée. Derek s'adressa à Branson.
« Ce vendeur, il s'est comporté comme si j'allais lui flanquer une raclée. Est-ce ainsi qu'ils sont traités dans le coin ?»«
Cela arrive. La plupart des aristocrates ne se risquent jamais dans la ville basse. Lorsqu'il leur faut quitter Tauris, ils empruntent la porte latérale du clos des patriciens. » Seuls ceux qui s'enrôlent dans la guilde des aventuriers arpentent la grande rue. Des jeunes gens peut-être un peu trop arrogants.
Je vois,
soupira Derek en esquissant un rictus méprisant. Lorsqu'ils se furent remis en route, ils purent profiter d'un spectacle fort divertissant. Thomas, tenant une brochette au-dessus de sa tête, essayait tant bien que mal de déguster la sienne tandis que le jus de viande qui dégoulinait de la gueule de Sylvie ruisselait sur son visage. Même Branson ne put garder son sérieux. Une vingtaine de minutes plus tard, ils atteignirent le portail menant à la deuxième enceinte. En des circonstances ordinaires, Derek et Thomas n'auraient eu aucune chance d'y entrer. Mais tous les gardes qu'ils avaient croisés jusqu'alors s'étaient inclinés respectueusement devant Branson. Ceux qui surveillaient l'accès ne faisant pas exception, le trio fut autorisé à y pénétrer.
« Si je dois séjourner ici, je vais devoir trouver un moyen de me déplacer librement d'une zone à l'autre. D'ici là, il faudra que je me repose sur Branson. »
Une fois le portail franchi, Derek se montra plus attentif à ce qui l'entourait. Passer de la ville basse au quartier marchand, c'était comme passer des ténèbres à la lumière. Il longea une boulangerie qui lui fit aussitôt regretter l'achat des brochettes. Tout en ces lieux sentait délicieusement bon.
« J'en veux, maintenant !»«
Plus tard, » répondit Derek. Pour le moment, tiens-toi tranquille.
Il eut beau essayer de calmer la lapicorne affamée, elle ne cessait de humer l'air ambiant.
« Oh, maman !»
s'écria une petite fille qui se promenait main dans la main avec sa mère.
« Regarde comme il est mignon !»
Lorsque le petit groupe avait traversé la ville basse, les habitants, intimidés par la cuirasse de Branson et par l'épée suspendue dans son dos, avaient pris soin d'éviter tout contact visuel et s'étaient vivement écartés sur son passage. À présent, c'était au tour de Derek et de Thomas de ne pas être à leur place. Le premier portait un t-shirt noir en peau de chauve-souris, un jean troué aux genoux et des bottes qui avaient connu des jours meilleurs. Le second, une armure de cuir qui, aux yeux des riches bourgeois, faisait peine à voir. La fillette s'adressa à Thomas.
« Je peux caresser ton joli lapin ?»
Quelques pas en retrait, la femme considéra Derek et Thomas d'un œil méprisant, puis son regard se posa sur Branson. À sa vue, ses traits se figèrent.
« Ne dérangeons pas ces messieurs, Shana. Je suis sûre qu'ils ont des affaires importantes à régler. » « Mais je veux jouer avec le lapin !»
gémit l'enfant.
« Je veux le caresser, je veux lui donner à manger !»
Sur ces mots, elle lui tendit un morceau de brioche. Il n'en fallait pas plus pour que Sylvie, sautant de son perchoir, se niche entre les bras de la petite fille pour y dévorer la pâtisserie.
« Tu vois, humain, ça paye d'être mignon. Tu ne sais pas ce que tu rates. »
Derek secoua la tête.
Avale ça en vitesse, on n'a pas que ça à faire.
La femme s'inclina avec respect.
Pardonnez-nous, capitaine Branson,
dit-elle.
Shana a besoin d'être disciplinée.
Ne dites pas cela, répondit l'intéressé. La petite fille aime les animaux, c'est tout naturel. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas pressés. « De plus, ce lapin est un véritable goinfre. Pour une fois qu'il ne vole pas sa nourriture, nous ne voudrions pas le décourager. »